Il y a une expression moi que j'adore qu'on dit souvent en fait. Les Anglo-Saxons disent "genetic load the gun and lifestyle put the trigger". Ça veut, la génétique c'est charger le fusil et le mode de vie c'est appuyer sur la gâchette. Donc il faut quand même bien garder cette notion en tête et pas se dire génétique égale fatalité. Moi j'ai souvent entendu au comptoir en pharmacie "ah j'ai de l'arthrose c'est génétique". Et très souvent, en fait, on se rend compte que ces personnes-là ont le même mode de vie que leurs parents, et donc effectivement, on va retrouver les mêmes problématiques.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Pendant des décennies, on a cherché à définir ce qu'était la bonne alimentation, celle qui conviendrait à tout le monde. Mais la science moderne commence à raconter une autre histoire. Ce serait peut-être nos gènes qui dicteraient nos besoins. Les avancées récentes en nutrigénomique tendent à montrer que nos gènes, notre microbiote et notre mode de vie façonnent nos besoins et nos réactions aux aliments. Pourquoi certains tolèrent parfaitement le gluten quand d'autres y sont hypersensibles? Pourquoi chacun réagit différemment au café? Et si tout cela dépendait de notre profil génétique? Dans cet épisode, on va explorer cette nouvelle vision de la nutrition, c'est-à-dire une approche plus individualisée qui cherche à comprendre nos besoins profonds à travers nos gènes. Pour parler de ce sujet avec moi, j'accueille Charlélie Copu. Bonjour Charlélie.
Bonjour Noémie.
Bah, enchantée de te rencontrer en vrai et de t'avoir sur le podcast Healthwise.
Bah, merci pour ton invitation, je suis ravie d'être ici avec toi.
En tout cas, on est content de t'avoir. Tu es docteur en pharmacie, heilpraktiker et expert en nutrition et micronutrition. Bah, j'en ai rencontré pas mal des heilpraktiker en Allemagne, mais c'est la première fois que j'entends ce terme ici en France. Du coup, c'est quoi la différence entre un heilpraktiker et un naturopathe?
Bah en fait, heilpraktiker, ça va être un peu le naturopathe en Allemagne, d'accord? Sauf qu'en Allemagne, le heilpraktiker, la profession est beaucoup plus encadrée.
Oui.
En France, les formations de naturopathie sont assez variables en fonction des écoles.
Ouais.
Certaines sont bien, d'autres le sont un peu moins. Et donc, après avoir passé mon diplôme de pharmacien, après avoir passé ma thèse, etc., j'avais beaucoup de questions auxquelles je ne trouvais pas les réponses pour l'accompagnement en fait des patients, des personnes. Et donc, je me suis tourné vers le heilpraktiker parce que pour moi, il y avait plus de rigueur que certaines écoles. Il y a très certainement des écoles en France avec beaucoup de rigueur, pardon, mais voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose qui venait compléter mon cursus de pharmacien. Et donc je me suis formé dans des écoles qui sont maintenant françaises, souvent à la frontière franco-suisse, où les cours sont dispensés en français. Et donc avec un gros volume de travail, et puis beaucoup de professeurs qui sont passionnants, avec de l'anatomie, de la physiopathologie, d'iridologie, de l'aromathérapie. Donc ça permettait d'avoir une approche globale de la santé. Voilà.
Trop cool. Bah, du coup, si t'as un diplôme de heilpraktiker, tu peux même exercer en Allemagne, sûrement, pour
Ouais,
faire
il
reconnaître,
faudrait
quoi.
le faire reconnaître, je pense, ouais. Et donc voilà, et puis c'est vrai que le heilpraktiker en Allemagne est beaucoup plus reconnu et beaucoup plus intégré dans le parcours de soins. Il peut poser des diagnostics, utiliser certaines thérapies manuelles, alors qu'en France, c'est la naturopathie est encore assez divisée de la médecine conventionnelle. Mais voilà, ça devrait évoluer.
Merci en tout cas pour cette petite clarification. Chez Sander, on a l'habitude de demander à nos invités bah, ce qu'ils font le dimanche. Et donc pour toi, ce serait quoi ton plat signature du dimanche?
Alors mon plat signature du dimanche, je pense que moi, ça serait tout ce qui touche à la cuisine Middle East. Beaucoup de couleurs, des légumes rôtis, du houmous, de la grenade, des viandes marinées ou des petits poissons gras. Voilà. Ou éventuellement, pourquoi pas un tagine si j'en ai plus de
Si
temps.
t'as le temps, ouais, un
Voilà.
dimanche posé. Ok, bah c'est trop cool de partager ça parce que moi aussi j'adore ça. On a choisi un thème assez particulier. Ma première réaction quand tu m'en as parlé, bah je me suis mise directement sur le sujet à faire des recherches et à lire les recommandations que tu m'as données, comme là ce livre-là dont on parlera plus tard. Mais dès que je me suis plongée dedans, c'était un peu dur. Je me suis dit l'ADN, le génotype, la génomique, les allèles, le polymorphisme, en fait c'est que des mots compliqués pour une ressortissante d'un bac littéraire musique
Oui,
et
j'imagine.
théâtre, quoi. J'ai pas arrêté de me dire mais comment je vais aborder ce thème avec toi et comment je vais faire moi pour comprendre ce que tu vas m'expliquer
Et surtout, si moi, j'arrive pas à comprendre comment les personnes qui nous écoutent vont pouvoir nous suivre jusqu'à la fin. Mais la seule solution que j'ai trouvée, c'était de me mettre vraiment dans la peau d'une élève au lycée, on va dire, qui a arrêté les sciences en première, et de pas arrêter de te poser des questions, et justement découvrir ça ensemble avec les gens qui nous écoutent, et que toi tu sois notre prof pour l'heure qui suit.
J'espère.
J'espère que on va pouvoir vraiment poser des questions simples.
Oui.
Et quand même aller un peu plus loin. Donc voilà, est-ce que t'es prêt?
Allez, je suis prêt, on va clarifier tout ça.
Oui, trop bien. Du coup, la première fois que j'ai entendu une théorie similaire, c'était dans une vidéo Insta, qui était un peu obscure, je vais pas te mentir. C'était avec une Américaine qui parlait des groupes sanguins et qu'elle mangeait selon son groupe sanguin. J'ai pas retrouvé la vidéo depuis, je pense qu'elle a été supprimée, bien que je l'avais enregistrée. Comme le sang est en fait un marqueur génétique assez puissant, je me demandais si ça allait un peu dans la même direction, de savoir une alimentation selon son génotype.
Alors oui, effectivement, t'as pas tort. C'est vrai que dans les années 80, il me semble, c'était Adamo, un naturopathe, qui avait sorti justement l'alimentation en fonction des groupes sanguins. Donc il y avait plusieurs livres, une alimentation adaptée au groupe O. Effectivement, on s'est rendu compte que ça avait un petit peu ses limites. Dans l'idée, il y avait des choses intéressantes. Mais scientifiquement, c'était trop fragile et puis trop restrictif pour certaines personnes. J'ai lu les bouquins il y a quelques années pour savoir de quoi ça parlait. Mais bon, ça manque un peu de rigueur scientifique et depuis, beaucoup de choses sont venues s'ajouter en fait à tout ça. Et c'est vrai que cette théorie-là, elle est un petit peu obsolète. D'accord ? Juste pour exemple, mais c'est vrai que Adamo parlait du groupe sanguin O, par exemple, qui est un groupe ancestral qui en théorie était plus apte à consommer de la viande comme nos ancêtres. Bon, c'est une notion qui est un peu obsolète et on va voir pourquoi, parce qu'en fait finalement effectivement la génétique joue un rôle, mais il y a aussi l'épigénétique, le mode de vie qui vient activer certains gènes ou pas, donc c'est beaucoup plus complexe que ça.
Ok, alors on va passer à des choses qui sont plus modernes, on va dire. Concrètement, est-ce qu'il y a que nos gènes, ou bien c'est une multitude de facteurs là, que comme t'as mentionné, le mode de vie, l'épigénétique, voilà, qui font qu'un aliment puisse passer crème pour nous ou pour d'autres, en fait, ça va provoquer des ballonnements ou de la fatigue. Donc, est-ce que c'est beaucoup de facteurs ou vraiment on peut se baser que sur les gènes?
Non, en fait, effectivement, c'est beaucoup de facteurs. Les gènes vont être en fait ça va être un terrain, on va dire une prédisposition génétique. On peut prendre par exemple le gène qui va te permettre de digérer le lactose, le gène qui va être responsable de l'expression de la lactase. Ça c'est un exemple. Certains vont avoir la lactase en quantité suffisante, d'autres non. Du coup, on aura des intolérants au lactose et d'autres qui vont le tolérer. Donc ça c'est un premier facteur effectivement, la génétique. Mais le mode de vie va être aussi très important. On parle souvent d'épigénétique. Il y a une expression moi que j'adore qu'on dit souvent en fait. Les Anglo-Saxons disent "genetic load the gun and lifestyle put the trigger". Ça veut dire la génétique c'est charger le fusil et le mode de vie c'est appuyer sur la gâchette. Donc il faut quand même bien garder cette notion en tête. Et pas se dire génétique égale fatalité. Moi j'ai souvent entendu au comptoir en pharmacie j'ai de l'arthrose, c'est génétique. Et très souvent en fait on se rend compte que ces personnes-là ont le même mode de vie que leurs parents et donc effectivement on va retrouver les mêmes problématiques. Donc la génétique c'est une chose mais c'est pas une fatalité non plus. Donc le mode de vie, ensuite on va aussi avoir donc tout ce qui est microbiote, l'impact du microbiote. Des personnes avec une génétique similaire mais avec un microbiote différent, on n'aura pas les mêmes effets. Il y a eu des exemples, par exemple, de tribus en Afrique qui ont des génétiques relativement similaires, avec justement un défaut de sécrétion de lactase dans les deux tribus, et pourtant certains vont mieux la tolérer que d'autres. Après, on a aussi d'autres facteurs au niveau des organes de détoxification, au niveau du mode de vie. Voilà, il y a plein de choses qui vont venir s'imbriquer. La perméabilité intestinale, par exemple, va accentuer tout ce qui est réaction immunitaire et inflammatoire. Donc, toutes ces choses-là sont à prendre en compte, et d'où l'intérêt justement de l'approche personnalisée et de l'approche fonctionnelle.
Donc c'est vraiment juste une information au départ.
Voilà, c'est une information.
Et à nous de savoir comment jouer nos cartes.
Voilà, à nous de savoir comment bien l'utiliser, comment l'optimiser, et savoir comment elle va s'activer ou pas.
Et du coup, le microbiote, ça a l'air d'être quelque chose de principal à aller regarder en détail. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans son organisme? Peut-être des choses où on sait qu'on peut avoir des problématiques, je sais pas, le foie par exemple, pour la fonction hépatique, ce genre de choses.
Oui, exactement. En fait, il peut y avoir des variabilités au niveau du fonctionnement des organes en fonction de chaque individu. Par le mode de vie, il y a certaines personnes, on peut avoir un engorgement au niveau de la fonction hépatique. On peut avoir des défauts de sécrétion d'enzymes aussi. On peut avoir aussi une hypochloridrie. Par exemple, une hypothyroïdie peut entraîner une hypochloridrie. Donc, on pourrait avoir une hypochloridrie et donc une mauvaise digestion. Et ça pourrait aussi mimer justement une intolérance ou une sensibilité à un aliment. Alors que, en réalité, la génétique n'est pas forcément chez cette personne-là, ne favorisait pas forcément une intolérance particulière.
Et puis, il y a peut-être d'autres facteurs, du coup, pas intérieurs, mais extérieurs, j'imagine. Maintenant, je vois dans plusieurs des podcasts, on parle de perturbateurs endocriniens, on parle de l'environnement qui nous influence aussi beaucoup.
Oui, effectivement, on est exposé à beaucoup de perturbateurs endocriniens. Alors là, je pense par exemple notamment au brome. Le brome, le brome, en fait, va entraver la bonne fixation de l'iode.
Ah oui, brome, c'est quoi?
Le brome, c'est un retardateur de flamme, donc on peut le retrouver dans les garnitures de portes de voiture, sur les canapés, les matelas, et il entrave la bonne assimilation de l'iode, donc ça peut être néfaste pour la fonction thyroïdienne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc tous les perturbateurs endocriniens viennent en plus s'ajouter justement à tout ça.
Du coup, si pour nous, concrètement, le gluten ou le lactose, on sait que ça passe pas trop, on va dire que c'est une intolérance ou une sensibilité. On sait que c'est pas une allergie parce que voilà, c'est pas trop grave. Si ça passe pas, est-ce que ça veut dire que simplement on est programmé pour que ça passe pas, pour mieux tolérer ces aliments? Est-ce qu'on peut savoir ça à l'avance?
Alors déjà, il faut quand même bien distinguer allergie, sensibilité, intolérance. L'allergie, en fait, ça va être une réaction qui va engager le système immunitaire et les IgE. L'intolérance, en fait, ça va être justement, ça peut être dû à un défaut de sécrétion enzymatique ou autre. Par exemple, la personne qui n'a pas la lactase, elle va être intolérante au lactose, d'accord? Et la sensibilité, ça va être en fait une réaction qui peut être un peu mixte entre les deux. Je schématise. Donc il y a des choses, oui, effectivement, qu'on peut savoir. On peut très bien doser et regarder si on a ce gène qui va nous permettre de synthétiser la lactase. Concernant l'amylase également, hein, c'est une enzyme qui est au niveau de la bouche qui permet de digérer les amidons. On peut savoir si on a une amylase qui va être optimale ou pas. Après, les signes cliniques aussi sont à écouter. Effectivement, la personne qui va consommer des produits laitiers et qui ne les tolère pas, en général, il faut peut-être se poser des questions sur la présence de la lactase ou pas. Voilà, ça, ce sont des cas assez simples. Concernant la problématique du gluten, c'est un petit peu différent parce qu'elle est souvent évoquée. On va avoir les personnes qui souffrent de la maladie cœliaque. Alors là, c'est très différent. On peut avoir des personnes qui ont une sensibilité au gluten. Et là, c'est pareil, ça peut être aussi plurifactoriel. Et c'est des sensibilités qui peuvent aussi s'accentuer avec le temps, et on va le voir justement dans ta question suivante.
Oui, justement, ma question, elle portait aussi sur ces sensibilités pour savoir si on pouvait les avoir pendant un temps ou si aussi on pouvait ne plus en avoir après.
En fait, c'est rien n'est figé. Si je prends l'exemple du gluten, tu peux avoir des facteurs qui vont te prédisposer à la maladie cœliaque. Et en étant de façon exposée, de façon répétée, pardon, au gluten, effectivement, tu peux aller activer certains gènes et déclencher une maladie cœliaque. Ça peut être possible. Ou bien, il y a d'autres facteurs, comme on le disait tout à l'heure, le gluten peut ne jamais te poser de problème. Et il peut y avoir des dérèglements ensuite au niveau de la flore intestinale, de la qualité de l'épithélium intestinal. Et cela ensuite peut entraîner des réactions, en fait, inflammatoires. L'exemple de la porosité intestinale est très intéressant parce que certaines personnes en fait peuvent faire des allergies alimentaires de plus en plus nombreuses avec le temps. Alors, dans la perméabilité intestinale, on a des choses qui vont passer, ça va déclencher entre guillemets le système immunitaire qui va réagir à une certaine chose, et puis au fur et à mesure, d'autres choses qui ressemblent à la substance en question vont réagir. Donc la personne va être au début allergique, enfin, ou va avoir des réactions au brocoli, puis ensuite ça va s'étendre aux cacahuètes, au pollen, etc., etc. Donc rien n'est figé, les choses peuvent évoluer pardon, dans le bon sens ou dans le mauvais sens.
Ok. Bah, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe avec moi parce que quand j'étais petite, j'avais que 3 allergies et maintenant j'en ai 17. Donc oui, ça peut changer avec le temps, mais en tout cas, moi, je vois qu'on peut aussi faire en sorte
Oui.
de réduire bah, les inflammations, les
Exactement.
symptômes avec le temps et avec aussi bah, de l'accompagnement.
Exactement. Personnaliser
Ouais.
vraiment là et individualiser l'approche. C'est
Ouais.
vraiment la clé.
Du coup, c'est de là d'où part le concept de manger selon ses gènes bah, apportés par la nutrigenomique, où on va manger en fait certains aliments qui vont activer ou désactiver certains gènes.
Oui, entre guillemets, c'est ça. Et puis il y a aussi certains gènes qui vont créer des terrains favorables ou défavorables. Alors il y a des gènes connus, on en entend de plus en plus parler, c'est le ApoE. On va avoir ApoE4, ApoE3 et ApoE2. Pour faire simple, ApoE4, c'est vraiment c'est un gène ancestral, d'accord? Parce qu'il faut savoir quand même qu'à la base, on vient tous d'Afrique. Il y a eu des migrations, des changements. Le corps s'est adapté en fait à ces changements. C'est le principe de l'évolution, hein. On vient d'Afrique, en migrant vers des pays avec un faible ensoleillement, ben la peau s'est éclaircie pour capter plus facilement la vitamine D. Voilà, ça c'est un exemple, mais il y a énormément d'autres exemples comme ça.
Du coup, si je comprends bien, c'est de là d'où part le concept de manger selon ses gènes apportés par la nutrigenomique, où on va manger certains aliments qui vont activer ou désactiver certains gènes.
Oui, en fait, en gros, c'est ça. Certains aliments vont activer certains gènes, mais c'est aussi l'inverse qui est valable, c'est-à-dire que certains aliments vont mieux convenir à certains gènes que d'autres. Voilà, en fonction des gènes, certaines personnes aussi auront des besoins plus importants en certains micronutriments que d'autres. Voilà, d'où la subtilité justement d'intégrer la nutrigénomique dans l'approche globale.
Ok, on va essayer de voir justement les gènes dont on parle un peu plus en détail. Je vais pas te mentir, pour moi c'est un langage crypté pratiquement. On peut faire un petit tour des principaux
Oui.
gènes qui sont intéressants de mentionner. Le premier, peut-être c'est le plus compliqué parce qu'il y a plein de variants, c'est ApoE.
Oui. ApoE, en fait, il va être responsable du transport de certains acides gras. Je schématise, hein, je synthétise l'idée, mais ApoE, alors on va trouver ApoE4, ApoE3 et ApoE2. ApoE4, c'est un gène en fait ancestral. Qu'on retrouvait justement, c'est on va dire un des gènes originaux, puisqu'on vient tous d'Afrique. Ensuite, il y a eu des différentes vagues migratoires. On a évolué, hein, en fonction de l'exposition au froid, du
Au
manque d'UV,
soleil, ouais.
etc. La peau s'est éclaircie quand on est allé dans des régions avec un faible ensoleillement. Voilà, mais tout ça pour dire que ApoE4, en fait, voilà, c'est un groupe originel qui va être, on va dire, qui va gérer les acides gras de façon très différente de ApoE2, par exemple, ou ApoE3. Et en fonction de ces paramètres-là, ben, certains individus, en fonction de votre ApoE, vous allez être plus adapté à un régime, par exemple, cétogène que d'autres, plus sensible aux glucides que d'autres. Et ApoE est très étudié, puisqu'en fait, ApoE4 est un facteur de risque, hein, dans la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est pas forcément parce que vous êtes ApoE4 que vous allez avoir la maladie d'Alzheimer. Bien évidemment, il y a votre mode de vie
Tu as joué.
qui va jouer un rôle majeur. Mais voilà, ApoE, c'est très intéressant à explorer.
Donc, acide gras et lipides à faire
Oui,
attention.
métabolisme du cholestérol, exactement. Une gestion des acides gras qui va être différente en fonction des profils.
Ok, c'est clair pour moi. On passe au deuxième. C'est DI2, diiodinase 2.
Oui, alors ça en fait c'est un gène qui va permettre de fabriquer en fait une enzyme qui va convertir l'hormone thyroïdienne inactive en forme active. Et alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, en termes d'évolution, tu pourrais me dire, mais pourquoi il y a des gens, c'est comme ça, rien ne se fait par hasard en fait, hein. S'il y a eu ces gènes différents qui s'expriment ou pas, en réalité, bah, c'est en fonction de l'environnement dans lequel on s'est retrouvé. Donc les gens qui convertissaient très bien la forme inactive de la T4 donc en forme T3, c'était souvent des personnes qui étaient exposées à un environnement froid, voilà, pour avoir un meilleur métabolisme énergétique. Et à contrario, des personnes qui vivent en zone tropicale auront moins d'intérêt à convertir activement la forme T4 en forme T3. Et donc après, voilà, c'est dans un mode de vie moderne, c'est là qu'on va retrouver justement des différences de prédisposition au niveau des maladies thyroïdiennes.
Ok, donc plutôt thyroïde sur ce gène-là.
Ouais, voilà, ça va vraiment conditionner la fonction thyroïdienne.
Ensuite, on a l'amylase salivaire qu'on a mentionné avant, AMI1A.
Alors l'amylase salivaire, ça aussi, c'est très intéressant, parce que figure-toi que à l'origine, on consommait très peu de céréales, voire pas du tout, hein. Le régime paléo, nos ancêtres...
avant l'agriculture.
Exactement, on s'est sédentarisé il y a moins de 10 000 ans, et avant la sédentarisation, on était très peu exposé aux céréales et aux amidons. Donc le fait d'avoir cette enzyme-là n'était pas forcément nécessaire. Et lorsqu'on s'est sédentarisé et qu'on a consommé beaucoup de céréales, l'adaptation a fait que avoir une enzyme qui permet de digérer les amidons devenait intéressante et ça devenait un facteur de survie. Donc on retrouve aussi une grande variabilité de présence de l'amylase chez les individus à l'heure actuelle.
Encore à notre époque.
Oui, parce qu'en fait on a tous eu des héritages différents. On a si on compare par exemple une tribu qui vit en Afrique et des Inuits qui vivent
Oui. Je vois.
Dans le froid.
Dans les extrêmes.
Les deux vont pas avoir la même alimentation. Ouais. Certains auront une alimentation beaucoup plus riche en fruits et légumes que, par exemple, des Inuits qui auront une alimentation très riche en acides gras et en protéines, par exemple.
Et du coup, pour leur amylase?
Bonne question.
Parce que là, tu m'as cité des exemples qui n'allaient pas avec les céréales. Et du coup, ça veut dire que les gens au milieu, c'est pour ça que c'est variable?
Oui, après, c'est variable puisque ensuite, il y a eu un mélange de populations, mélange de gènes, etc. Donc des persistances ou pas de certains gènes. Et encore une fois, l'exposition à certains facteurs de l'environnement vont activer ou désactiver le gène.
Donc c'est au niveau de la sécrétion qu'il faudrait qu'on regarde un peu plus en détail.
Oui, ça peut être au niveau de la sécrétion, ça peut être aussi au niveau des signes cliniques, la façon dont tu tolères certains aliments riches en amidon, par exemple. Et puis, en fait, tu peux voir au niveau effectivement génétique si tu vas exprimer de façon suffisante l'amylase ou pas. Et en fonction de ça, bah, bien sûr, il faut adapter son alimentation, adapter aussi sa façon de manger, puisque la mastication, elle est très importante justement pour sécréter l'amylase. Donc, une personne qui aura un défaut de sécrétion d'amylase, effectivement, si elle ne mâche pas et qu'elle consomme énormément de produits riches en amidon, ça risque d'être problématique sur le système digestif. Cette personne-là, on aura tendance à lui conseiller d'avoir une alimentation adaptée, une bonne mastication et pourquoi
prendre
pas une supplémentation
temps,
en amylase si besoin.
Ah oui, ça existe?
Ça existe.
Ok, bon, bah, au moins c'est plus clair pour moi. On passe au suivant, c'est le LCT-MCM6. Pour moi, pareil, code crypté, on n'a pas mentionné encore.
Alors ça, c'est un gène qui va coder pour la lactase. Donc la lactase, hein, pour digérer le lactose présent dans...
Ah, c'est celui-là, ouais, du coup.
Le fameux, présent dans les produits laitiers. On possède la lactase quand on est enfant pour digérer le lait maternel et ensuite elle disparaît. Mais du coup, comme tu le sais, quand l'homme s'est sédentarisé il y a 10 000 ans, eh bien, il a élevé des animaux et il a utilisé le lait justement pour faire des produits laitiers et le consommer, chose qu'on ne faisait pas à l'origine. Et ça a entraîné une persistance de la lactase. Et alors c'est assez intéressant parce que la lactase, en fonction des certaines régions, on aura des populations qui vont présenter une persistance de la lactase beaucoup plus que d'autres.
Ok, on passe au dernier, le MTHFR. Ça, je l'ai déjà vu dans quelques trucs que j'ai lus, mais je pense qu'il faut que tu m'expliques quand même un peu plus.
Alors MTHFR, en fait... c'est un gène qui va synthétiser une enzyme pour transformer l'acide folique en forme active, en forme méthylée, le méthyl tétrahydrofolate, 5-MTHFR. Et donc, il y a certaines personnes qui vont être porteurs du gène qui vont, en fait, avoir une conversion en forme active qui va être diminuée de 70%. Ça, c'est le cas extrême. Et donc, ça va être très intéressant à explorer. Ben, tu connais l'importance de la vitamine B9 et de l'acide folique sur la femme enceinte, dans le cycle, dans le cycle de l'homocystéine, etc. Donc ça, c'est un marqueur qui est très important, qui peut être dosé pour contrôler. On peut faire des dosages aussi sanguins de l'acide folique, de la vitamine B9, dans le sérum ou en forme érythrocytaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pareil, ces variabilités génétiques, elles n'ont pas eu lieu par hasard, parce qu'effectivement, dans les environnements qui étaient riches en acide folique, les environnements où les gens consommaient beaucoup de végétaux riches en acide folique, le fait de convertir en forme active pleinement, c'était pas forcément utile. Ces personnes-là, enfin de ces ancêtres-là, pouvaient convertir de façon incomplète l'acide folique, ça posait pas de problème puisqu'il y avait une abondance d'acide folique dans l'alimentation. À l'heure actuelle, dans un régime moderne, pauvre en nutriments ou riche en aliments transformés, l'acide folique va être très faible. Donc si on a des personnes qui en plus de ça convertissent très mal, ça va être très problématique.
Ok, donc c'est vraiment pour ce gène-là, l'activation des vitamines B.
Voilà, en général.
Surtout B9.
Voilà, le MTHFR, c'est vraiment pour. Ça permet d'avoir la forme active de l'acide folique, la forme méthylée de la B9.
Ok.
Donc, ça, c'est quelque chose de très important à regarder.
Et moi, j'avais entendu ces trucs d'activation de vitamine B plutôt dans les polymorphismes, et on m'avait cité par exemple le FUT2, et ça fait partie aussi des choses que j'avais listées là.
Ouais, exact. FUT2, en fait, on a. C'est les gens qui vont être FUT2 sécréteurs ou non sécréteurs. Ça va être en. Le FUT2 sécréteur, en fait, va améliorer la qualité du microbiote. Par conséquent, faciliter l'absorption de la vitamine B12. Le FUT2 non sécréteur, ça sera un désavantage au niveau du microbiote. Ça aura des conséquences sur l'absorption de la vitamine B12, notamment. Et là encore, c'est une adaptation. Ça ne s'est pas fait par hasard. En fonction, en fait, de l'environnement dans lequel on s'est trouvé. Sur des études, on s'est rendu compte que, par exemple, les FUT2 non sécréteurs étaient justement plus résistants à certaines infections virales, certains virus justement, et à contrario, les FUT2 sécréteurs, souvent des personnes qui vivent dans des régions tropicales avec un risque bactérien important, ont justement un microbiote plus varié, et donc. Toutes ces variations, elles se sont faites justement favoriser la survie dans des environnements différents.
Ok, et avec les vitamines B, du coup, là par exemple, le FUT2, il faudrait regarder quoi ? Il faudrait savoir quoi ?
Alors FUT2, on peut regarder si on est FUT2 sécréteur ou non sécréteur. Donc ça permet d'avoir un indicatif de savoir en fait notre terrain et on va dire nos points faibles le microbiote et l'assimilation de certaines.
Donc par exemple, si on est sécréteur, ça fait quoi sur notre microbiote ?
Alors FUT2 sécréteur sera un avantage sur le microbiote. Voilà.
Et non sécréteur ?
Voilà, donc
c'est là la problématique.
Voilà, FUT2 non sécréteur, ça va être là la problématique. Voilà.
Et du coup, ça fait quoi ? Exactement, parce que je crois que j'ai pas compris. Si on est non sécréteur, ça fait quoi dans notre organisme ?
Bah, FUT2 non sécréteur, dans l'organisme, on va dire que le microbiote va être moins optimal, et l'assimilation de certaines vitamines comme la vitamine B12 se fera moins bien.
Donc ça veut dire si on a les carences en vitamine B12, par exemple, parce qu'on est végétarien, etc., et que au final on se supplémente et on voit que ça remonte pas, on va peut-être se poser la question là sur le FUT2.
Oui, par exemple, on peut regarder FUT2 et peut-être aussi se poser des questions sur le régime alimentaire.
Ah ouais. Oui, ça aussi. ok, du coup, on a mentionné la méthylation là juste avant, voilà, parce que j'avais dit, je pense que chez Sunday, j'ai dû entendre ce mot parce que on avait justement des vitamines méthylées, mais je pense que c'est encore un peu flou d'expliquer ce que c'est la méthylation et les vitamines méthylées. Peut-être que tu peux nous aider là-dessus.
Bah, les vitamines B, la vitamine B9, B12, elles vont intervenir justement dans le cycle de la méthylation. Donc ce cycle de la méthylation, il doit se faire correctement et souvent on regarde un paramètre qui s'appelle l'homocystéine. Voilà, lorsque l'homocystéine est élevée, hein, c'est un risque cardiovasculaire et cérébral. Donc l'avantage d'apporter des formes méthylées, ben, on est sûr justement que ces formes méthylées rentrent correctement dans ce cycle de la méthylation. Donc effectivement, la personne qui, si je prends la personne par exemple qui convertit mal l'acide folique en forme méthylée, là on aura tout intérêt à lui donner en supplémentation une forme méthylée directement pour combler le déficit.
Ok, donc c'est plus direct.
Voilà, une personne qui est végétarienne, qui a une vitamine B12 très faible, lui, la supplémenter en B12 méthylée va être aussi intéressante justement pour rentrer dans le cycle de la méthylation. Et encore une fois, nos besoins en vitamine B12 sont différents. Et justement, ça vient de nos origines. Certaines populations avaient des régimes, on va dire, beaucoup plus riches en viande que d'autres. Et tout ça, ça a créé des adaptations et on bénéficie quand même de cet héritage-là.
Ok, bon, en tout cas, c'est plus clair pour moi. On passe à un sujet qui est encore lié aux vitamines, c'est celui des carences qui peuvent bah, toujours être là, même avec une bonne alimentation. Et est-ce que certains variants de gènes peuvent aussi influencer ces carences qui sont persistantes?
Ben oui, effectivement. C'est vrai qu'en général, on a des recommandations nutritionnelles qui sont souvent globales. Si je prends l'exemple du magnésium, très souvent en France, on recommande 6 mg par kilo par jour. Mais là, encore une fois, si je prends l'exemple du magnésium, chez certaines personnes, il va être métabolisé différemment. Et certaines personnes auront des besoins beaucoup plus importants que d'autres. Ensuite, si je prends l'exemple de la vitamine D, alors la vitamine D, le phototype de peau va influer hein, la synthèse de vitamine D avec le soleil, bien évidemment. Mais on aura des personnes qui vont justement fonctionner avec des taux de vitamine D, qui vont fonctionner correctement avec des taux de vitamine D bas, enfin plus bas que d'autres. Là, il y a vraiment aussi une variabilité interindividuelle, d'accord. Ça, c'est aussi toujours pareil. Ça, c'est issu de notre héritage et de nos ancêtres. Si je prends l'exemple aussi du bêta-carotène, certaines personnes vont moins bien convertir le bêta-carotène en forme active qui est le rétinol. Ça c'est un facteur qui est très important. Par exemple, pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit qu'on ait. Tu as des ancêtres, par exemple, qui avaient une alimentation très riche en rétinol, donc c'est la forme de vitamine A active qu'on retrouve dans la viande, les abats, etc. Donc si tu apportes directement la forme rétinol, le corps n'aura pas forcément besoin de la convertir en forme active. Par contre, à contrario, si tu es une personne qui a une alimentation riche en précurseurs, eh ben la génétique va faire qu'il va y avoir une conversion en rétinol qui va devoir être mise en place en forme active. Donc c'est pour ça qu'on a ces héritages-là différents. Certaines personnes, en mangeant des fruits et légumes riches en bêta-carotène, vont avoir des taux de vitamine A active corrects, alors que d'autres non. Donc ça, c'est aussi un gène intéressant à regarder sur la conversion du bêta-carotène en forme active rétinol.
Donc même si on se supplémente aussi, là j'avais compris aussi qu'il pouvait y avoir des polymorphismes.
Exactement.
En plus, donc on teste la supplémentation, on voit que ça remonte toujours pas, et donc là on va regarder un peu plus loin.
Ouais, voilà, on teste la supplémentation, on regarde aussi les supplémentations qu'on prend, les formes, d'où l'intérêt des formes. C'est pour ça qu'en fonction des labos, on a des formes qui sont actives, des formes inactives, et des gens qui vont bien convertir ou pas, d'où l'approche individualisée de la supplémentation.
Ok, on passe ensuite à une autre question, où justement là, tu as mentionné aussi beaucoup, soit des ancêtres, soit des cultures différentes dans des environnements différents. Dans un épisode précédent de Healthwise, il y avait le docteur Nathalie Georget qui expliquait que certaines populations et cultures qui avaient une alimentation très saine ont vu exploser des cas de diabète et de maladies cardiovasculaires ou auto-immunes après une industrialisation très rapide et un changement presque brutal dans l'alimentation. Bah moi je pense à Okinawa, aux pays asiatiques en règle générale, et elle disait que leur organisme et notamment leur microbiote n'avait pas eu le temps de s'adapter à ce nouveau mode d'alimentation et à se rééquilibrer dans ce mode de vie complètement différent. Donc on peut dire que nos gènes répondent aussi à un certain type d'alimentation hérité de nos parents, voire de nos ancêtres. Donc ça, c'est ce que tu mentionnais plusieurs fois.
Oui.
Mais oui, peut-être qu'on peut reconfirmer ce qu'a dit Nathalie Georget.
Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'en termes d'évolution, on a évolué, on a migré de façon aussi très lente. C'est ça qui a permis en fait à la génétique de s'adapter. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait en 5 ou 10 ans, bien sûr ça s'est fait sur des périodes beaucoup plus longues. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, quand les migrations se sont faites, quand Homo sapiens a quitté l'Afrique pour se rendre pour se rendre en Europe du Nord, etc., et il le faisait à pied, hein. On était des nomades, mais à l'heure actuelle on est des nomades mais en avion, c'est-à-dire qu'on traverse la planète en 10 heures, alors qu'avant, en fait, ça s'est fait sur des centaines de milliers d'années. Et donc, tout ça, la génétique, justement, a eu le temps de s'adapter. Et effectivement, maintenant, on a énormément de changements dans l'alimentation qui se font sur un laps de temps très court. Ne serait-ce que la...
Des dizaines d'années, même pas.
Voilà, c'est ça, des dizaines d'années. La sédentarisation, on s'est sédentarisé il y a moins de 10 000 ans. Donc... Déjà, ces changements-là, ça a bouleversé pas mal de choses depuis le début de l'humanité. Et donc oui, ma confrère a raison, c'est vrai que le corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Parfois, le corps n'est pas adapté à son biotope. Effectivement, si je prends un Nigérien qui se met à habiter au Canada, donc il se déplace en avion, par exemple, il va avoir affaire à une alimentation qui est complètement différente, à des facteurs environnementaux qui sont complètement différents, et en termes de santé, ça va être une problématique.
Plus glucidique aussi au fur et à mesure des
ouais,
années.
Ouais, et après, voilà, bien sûr, au niveau de l'alimentation, et c'est pareil, hein, si je prends un Norvégien et que je le mets en région équatoriale, il sera plus fragile à certaines infections parasitaires. Au niveau des UV, il sera aussi beaucoup plus sensible. Il va pas être forcément adapté, même si le corps, dans tous les cas, arrive à s'adapter. Mais parfois, il y a une sélection, donc au détriment de certaines choses.
Donc moi, par exemple, qui habite maintenant en Allemagne, j'ai dû m'adapter à la Kartoffelsalat et aux viandes de porc, par exemple. Ouais. Tu penses à quoi, là, par exemple, auquel j'ai dû m'adapter, même dans l'alimentation. C'est juste pour la blague, hein, c'est vrai.
Et ouais, non, après, c'est quoi déjà les kartoffeln?
Kartoffeln, bah, c'est les salades de pommes de terre.
Ah ouais.
Et aussi beaucoup de saucisses, de viande,
ah ouais,
par
ça.
Exemple. Ou même en Allemagne, il y a le Abendbrot, le repas du soir, qui est souvent du pain et des tranches de fromage ou de charcuterie ou du Brotaufstrich, c'est des pâtes de légumes à mettre sur le pain.
Ah
donc
ouais,
c'est
okay.
Vrai que ça fait beaucoup de pain, par exemple.
Ouais.
Chaque soir. Et oui, si on n'a pas l'habitude... Après, en France, on mange beaucoup de pain, donc je dis rien. Mais oui, du coup, j'imagine, là, tu prenais des exemples un peu d'extrême l'hémisphère.
Mais en fait, voilà, c'est surtout pour schématiser, pour vraiment comprendre que l'adaptation, elle se fait sur un temps qui est relativement long. Et à l'heure actuelle, dans un monde où tout change très vite, où on se déplace aussi très vite... le corps n'a pas forcément le temps de s'adapter.
On voit aussi certaines plantes qui se sont adaptées à leur environnement de manière extraordinaire. On en a fait un podcast sur les plantes adaptogènes là il y a pas très longtemps. Je pense aussi au curcuma par exemple, qui pousse dans un climat très chaud et humide, ou la maca qui résiste au froid et à l'altitude. En tout cas, pratiquement toutes les plantes adaptogènes qu'on peut se pensionner se sont adaptées. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec cette intelligence adaptative du vivant et notre propre capacité à nous adapter, nous humains, à notre alimentation et à notre environnement ?
Ben oui, dans tous les cas, on a cette capacité d'adaptation qui est énorme, comme les plantes. Les plantes adaptogènes, c'est un exemple très intéressant. Et en général, ces plantes adaptogènes qui sont dans des milieux très rudes, permettent aux hommes qui vivent dans ces biotopes-là de s'adapter aussi à ces environnements très rudes. Si je prends par exemple la rhodiole, les peuples qui vont consommer la rhodiole auront tout intérêt à l'utiliser pour s'adapter à ces environnements compliqués. Et nous, on est en continuelle adaptation. Et d'ailleurs, tous ces problèmes de maladies, de civilisation, l'obésité, c'est une forme d'adaptation en fait. Le corps s'adapte à une alimentation beaucoup trop riche en sucre. Donc le foie gras, par exemple, la stéatose hépatique non alcoolique, par exemple, c'est tout cet excès de sucre, de produits transformés. Le corps s'adapte. Alors, ce qui chez nos ancêtres était un facteur de survie, parce qu'effectivement le stockage permettait d'affronter l'hiver. Là, à l'heure actuelle, c'est plus de l'obésité, du diabète, mais c'est une forme d'adaptation.
Ouais. À nos modes de vie aussi.
À nos modes de vie, ouais.
On parle depuis des millénaires des doshas, vata, pitta, kapha, qui correspondent chacun à un terrain spécifique ou au moins une manière dont le corps réagit à la nourriture, au stress ou au climat. Certains profils, ils ont besoin de plus de chaleur, d'autres plus de fraîcheur. Certains digèrent mieux les graisses, d'autres pas du tout. Les médecines traditionnelles, en général, prenaient déjà en compte ce terrain individuel. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que la nutrigénomique, finalement, c'est une forme moderne de ces approches ancestrales individualisées?
Oui, en quelque sorte. En fait, dans l'Ayurveda, la prise en charge, en fait, ça va être de la personne, ça va être de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les doshas, et ensuite, c'est ça, de l'extérieur vers l'intérieur. La nutrigénomique, ça va être, bien sûr, c'est une approche personnalisée, mais on sera plus de l'intérieur vers l'extérieur. Hein? C'est un potentiel qu'on a, et ensuite, qui va s'activer ou pas, qui va créer des faiblesses, des forces ou des faiblesses. Et justement, qu'on va venir exploiter, ajuster, optimiser avec la nutrition, le mode de vie, etc., etc. Donc oui, on pourrait faire un parallèle. Si je prends le pitta, qui est en Ayurveda, le pitta c'est le feu digestif. On pourrait peut-être en nutrigénomique faire un parallèle avec une abondance de d'enzymes digestives. Un métabolisme hépatique important.
Ok, en tout cas, j'aime bien cette image de l'extérieur vers l'intérieur. Et cette fois-ci, là, on parle de l'intérieur vers l'extérieur. En tout cas, on sait précisément ce qu'on a pour pouvoir s'adapter mieux. Il y a différentes sources qui sont intéressantes aussi de mentionner, que je voulais mentionner en tout cas dans ce podcast, et je voulais avoir ton avis surtout. Il y a d'abord la plus connue dans le monde francophone que tu m'as recommandé, c'est le docteur Georges Mouton qui mentionne dans le livre, ce livre-là d'ailleurs, oui. « Je mange selon mes génotypes ». Et en fait, ça se concentre sur 4 génotypes principaux qu'on a mentionnés, ApoE, DI2, amylase salivaire et le LCT-M6, qui propose la création, en tout cas lui propose la création d'un index glycolipidique pour déterminer si une personne doit privilégier les lipides ou les glucides. C'est quoi du coup les bons et les mauvais côtés de cette approche?
Alors oui, tu fais bien de citer le livre donc du docteur Mouton, qui est un très bel ouvrage, qui est justement très intéressant et abordable si vous avez envie d'aller plus loin en fait sur cette thématique. Il y a des termes très techniques. Et alors, effectivement, les limites, voilà, c'est comme je disais au début, c'est de ne pas non plus se cantonner qu'à la génétique, parce que cette génétique, comme je le disais, oui, la génétique c'est une chose, mais c'est surtout aussi le mode de vie qui va venir activer. Il faut pas se dire j'ai ce facteur génétique là, c'est pas forcément une fatalité. Pour moi, c'est ça les limites, hein, parce que la nutrigénomique, elle doit venir s'intégrer dans une approche globale. On peut pas raisonner qu'avec la nutrigénomique, mais il faut l'intégrer à la pratique et à l'approche fonctionnelle globale.
Et moi, je me posais la question, justement, tous ces gènes qu'on a mentionnés, s'il fallait les faire tester. Et si oui, comment? Parce que c'est vrai que ça peut être un frein déjà à se pencher là-dessus si on doit faire beaucoup de tests.
Oui, alors il y a des gènes classiques qui peuvent être faits en laboratoire, le MTHFR, ApoE, DIO2, la AMYK1. Oui, les tests concernant les gènes, ils peuvent être faits en laboratoire. Il y a des choses assez classiques comme le MTHFR, DIO2, le gène concernant l'amylase, ApoE. Certains gènes qui sont cités dans le livre du docteur Mouton peuvent être faits relativement facilement. D'autres gènes sont moins évidents à faire tester. Mais encore une fois, la clinique, s'intéresser aussi à ses origines peut des fois donner quelques indications. Il y a certaines choses assez basiques qui peuvent être faites. Et après, c'est toujours pareil, toujours adapté en fonction de la problématique.
Et avec son index glycolipidique, pour savoir si on peut privilégier les lipides ou les glucides, ça, c'est en fonction du coup de ces quatre gènes-là, on saura.
Surtout en fonction de ApoE, oui, ouais. C'est ça, effectivement, ça donne une idée, justement. Et ça va être très intéressant. Parce que ça permettra de mettre en place une nutrition personnalisée. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup de régimes, soit des régimes végétariens, soit des régimes carnivores, sur les réseaux sociaux qui circulent. Voilà, c'est pas parce qu'un régime convient à une personne qu'il va forcément convenir à la majorité des individus. Donc c'est très intéressant, ça permet de pouvoir se situer et d'adapter au mieux son régime alimentaire. Voilà. Surtout à l'heure actuelle où on est vraiment sollicité par tout un tas de choses un peu différentes.
En parlant un peu de ce qu'on allait faire avec mes collègues, ils m'ont mentionné une étude assez connue au final, l'étude DietFit de 2019, où il y avait 609 patients obèses répartis en deux groupes. Un avec un régime high fat, donc avec plus de graisse, un régime high carb, donc plus de glucides, avec un suivi intensif pendant un an et 22 nutritionnistes. Au final, il n'y avait aucune différence de perte de poids entre les deux régimes qui étaient proposés, parce que c'était testé sur trois génotypes qui étaient liés à la sensibilité à l'insuline. Et ça n'a montré aussi aucune corrélation significative. Okay. Donc je me demandais s'il y avait aussi d'autres tests qui ont été faits, ou si il y avait encore des choses qu'on devait tester.
Eh ben oui, alors c'est vrai que je connaissais pas cette étude, mais c'est intéressant que tu mentionnes ce paramètre-là. Effectivement, comme on le disait, hein, génétique, ça ne veut pas forcément dire fatalité. Et dans le même sens, hein, c'est pas forcément parce que tu adaptes ton alimentation en fonction de ta génétique que tout va fonctionner correctement. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Et là, on pourrait se poser la question justement de la qualité de l'écosystème intestinal. Effectivement, des personnes qui sont obèses, ça veut déjà dire qu'il y a une alimentation qui n'était pas adaptée pour arriver à cette obésité-là. Ça veut très certainement dire aussi qu'il y a un état inflammatoire, une stéatose hépatique. Ça veut aussi dire très certainement qu'il y a un microbiote qui est déséquilibré. Et parfois, si la dysbiose par exemple est pas traitée, eh bien, juste en changeant l'alimentation, on n'aura peut-être pas aussi forcément les résultats attendus.
Ok. Donc il y a encore des choses à tester, ouais. Et de rajouter d'autres facteurs.
Voilà, vraiment pour vraiment comprendre que cette nutrigenomique, elle vient s'intégrer à une approche globale, mais il faut pas rester focalisé que sur ça.
Et du coup, j'ai aussi beaucoup fait de veille sur les réseaux. J'ai vu pas mal d'influenceurs américains surtout faire le génotype diet créé par le docteur Peter D'Adamo, qu'on a mentionné déjà précédemment. C'est un système en fait qui prétend adapter l'alimentation selon nos forces et faiblesses génétiques. Mais apparemment, c'est pas fondé ou validé, mais il y a encore des gens qui le font. Tu penses pourquoi ?
Alors, pour le régime en fonction des groupes sanguins,
surtout. Ouais, je pense que c'était ça.
Ouais, pour moi, je pense que c'est trop limitant, et puis parfois même trop restrictif chez certaines personnes. Et se baser que sur un seul facteur, le groupe sanguin, c'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, peut-être que le groupe sanguin n'a pas évolué, mais d'autres gènes ont évolué comme on l'a vu ensemble. Il y a une multitude de choses. Il y a eu une multitude de mélanges, donc on a hérité de patrimoines génétiques, pardon, qui sont très variés. Et donc justement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir optimiser. Comme on dit, hein, il y a pas de one fit size all. Hein. La nutrigenomique, elle doit être intégrée à une approche globale et personnalisée. C'est vraiment un outil intéressant qui parfois peut aider les gens sur certains blocages. Voilà, mais surtout, oui, se faire accompagner, c'est vrai que se lancer seul dans la nutrigenomique, il faut, c'est quand même mieux d'être accompagné par un professionnel de santé. Ouais.
Un dernier point sur le livre de Dr Mouton, il y avait la diète cétogène qui était beaucoup mentionnée. C'est pas mieux de suivre un régime comme ça, en fait, pour tester en premier, pour éviter de se prendre la tête à essayer de trouver quelque chose qui soit beaucoup plus travaillé.
Pourquoi pas? Après, c'est toujours pareil, à adapter en fonction de chacun. La diète cétogène, sur une personne qui va avoir une faiblesse hépatique et rénale, ça va être compliqué. Donc, moi, je pense plutôt... l'idée, c'est vraiment d'essayer de retrouver du bon sens dans l'alimentation. Souvent, on parle d'alimentation ancestrale. Alors, ça ne veut pas forcément dire d'aller manger de la viande cuite dans une caverne, mais c'est d'éviter les aliments ultra-transformés, parce que ça... On le sait, les aliments ultra transformés, peu importe votre génotype, dans tous les cas, ils auront un effet néfaste. Mais voilà, de retrouver du bon sens dans l'alimentation et d'éviter les aliments transformés, ça, c'est déjà une grosse chose à faire, intéressante.
Bah, merci beaucoup de m'avoir fait voyager sur ce sujet. J'espère que j'ai été une bonne élève jusque-là. Est-ce que tu as encore envie de rajouter quelque chose? Peut-être qu'on n'a pas encore abordé ensemble.
On a à peu près tout dit, ouais. Du moins, c'était une initiation à la nutrition génomique. J'espère que ça va vous donner des pistes. Et il y a plein de sujets à explorer, plein d'outils que vous pouvez utiliser dans une approche globale.
En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et en tout cas, tu nous apprends beaucoup aussi dans tes carousels, toujours très instructifs sur Instagram, souvent sur des sujets très uniques que j'adore. Donc pour les voir, ça se passe sur ton compte Dr_Néandertal. Et si ça intéresse toujours les gens qui nous écoutent, tu fais aussi des sujets de blog sur ton site qu'on mettra en description si tu veux bien.
Très bien, merci.
Encore merci pour ta présence. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter aussi si vous avez des questions. Charlie, j'espère que tu pourras répondre parce que moi, je suis encore en tant qu'élève. Donc voilà, si vous avez des choses un peu plus détaillées, tu seras là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Healthwise. En attendant, prenez soin de vous avec Sun Naturel. À bientôt. Qu'est-ce que toi tu prends comme complément alimentaire?
Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que moi je prends comme complément alimentaire? Ouais. Aucun. Non, je plaisante.
C'est vrai?
Non. Qu'est-ce que je prends? Alors, bien sûr, j'ai fait moi des tests génétiques.
Ok.
Sur mes forces, mes faiblesses. Donc moi, je prends de la vitamine D régulièrement. C'est vrai que je prends du magnésium.
À quel dosage?
Ça dépend de l'activité. Ça dépend aussi des formes. Je varie les formes en fait.
Ah, oui.
Citrate, malate.
Ah oui, pour la vitamine D?
Pour le magnésium.
Ah oui, et ouais. Pour la vitamine D, quelle de UI?
Ça dépend en fonction des dosages sanguins. Je contrôle régulièrement mes dosages sanguins en réalité, mais ça varie entre 2000 et 4000 UI.
Ok.
Malgré le fait que je sois souvent à l'extérieur, je contrôle quand même ma vitamine D régulièrement. Et j'invite les gens à contrôler leur taux.
Donc vitamine D, magnésium.
Ouais, pour moi, la vitamine D, c'est vraiment la clé de voûte de l'état de santé. Magnésium aussi, et magnésium, pareil, en fonction de l'activité physique, je vais... alterner les formes et puis les dosages, souvent citrate, malate, acétyltorinate, glycérophosphate, etc., bisglycinate. Magnésium, les oméga 3, quand dans l'alimentation les apports en oméga 3 sont pas suffisants, je fais doser les oméga 3, je fais un dosage des acides gras érythrocytaires quand même pour savoir où j'en suis. Certains antioxydants, parfois j'utilise l'iode aussi. Voilà, tout ce qui peut pas être apporté par l'alimentation de façon optimale, mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses avec moi régulièrement qui m'accompagnent.
Ok, bah merci en tout cas de nous avoir partagé ça.
Avec plaisir.